C'est un privilège pour moi d'être là ce matin, dans une journée comme celle-ci. Alors peut-être, juste pour une toute petite rectification, ce n'est pas une journée mondiale. Il y a une journée mondiale que nos amis et frères et sœurs catholiques ont générée, qui se trouve plutôt en janvier. Mais la journée qu'on vit aujourd'hui est une journée suisse. Néanmoins, c'est une journée qui est née dans le cœur d'une femme médecin en 1932, donc avant la guerre, parce qu'elle soignait des gens qui étaient atteints de tuberculose. Et à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, puisque les antibiotiques sont arrivés, la pénicilline est arrivée pendant la guerre. Et ces gens étaient soignés par héliothérapie. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Le soleil, exactement. Ils étaient amenés dans les hauteurs à Lézin et ils étaient mis sur des grands balcons. D'ailleurs, les cliniques étaient faites avec des grands balcons pour sortir avec les lits. Et ils étaient soignés là-haut. Et cette doctoresse était médecin là-haut. Et elle remarquait une chose, c'est que ses patients, ses malades, n'avaient pas de visite. Jamais. Et de cela est née dans son cœur, cette femme était croyante, le fait de générer une journée pour penser aux malades dans l'année. Et pourquoi ? C'est toujours, toujours le premier dimanche du mois de mars, parce que c'est là que renaît le printemps. Et souvent, dans le cœur de ces malades, c'est un moment difficile d'être seul là-haut alors que le printemps renaissait. Et voilà d'où est née la journée des malades suisses. Pendant la guerre, elle a été un peu mise de côté. Et puis ensuite, elle est revenue, puis elle est reconnue vraiment au niveau de la Suisse, puisque vous savez, et vous savez probablement depuis quelques années encore un peu mieux, que notre président de la Confédération fait une allocution ce jour-là. Et c'est devenu célèbre surtout depuis la fameuse allocution de M. Schneider-Hamann sur le rire. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Ouais. Alors moi, je bénissais Dieu en disant, ah ben, maintenant, les gens vont se souvenir qu'il y a une journée des malades. Donc, voilà. Donc, c'est un privilège pour moi de venir là ce matin. C'est vrai, je coordonne le travail des chrétiens au service de la santé, mais les chrétiens au service de la santé, ce n'est pas moi. Hein. C'est vous, soignants. Qui parmi vous ici travaille dans la santé ? J'aimerais que vous leviez vos mains. Santé ou sociale ? Ouais. Voilà. C'est vous, les chrétiens, au service de la santé. Moi, je ne fais que de coordonner ce travail sur la Suisse romande et sur l'Europe. Voilà. Dernièrement, on m'a passé un article, L'air du temps, c'était dans l'Express, c'était pas encore l'Arc Info, où un Nicolas Wim, un journaliste, disait ceci, « L'hôpital n'est pas forcément un endroit très gai. On y croise surtout des gens qui ne vont pas très bien et l'on espère y mettre les pieds le moins souvent possible. Pourtant, quand on y est et que c'est la première fois que l'on y passe depuis qu'on est né à la maternité, on découvre de l'intérieur ce monde assez mystérieux. Un monde où la vie est finalement omniprésente, même si la mort est parfois au rendez-vous et vous oblige alors à une confrontation qui peut être surprenante. Les Neuchâtelois aiment bien parler de leurs hôpitaux. Nous avons largement disserté sur ce sujet. Mais toutes ces discussions deviennent vraiment dérisoires quand on se retrouve dans un lit d'hôpital et que l'on découvre au quotidien, en partie, la vie des patients, mais surtout celle du personnel. Celle du grand patron qui fait sa vie du matin, ainsi que sa visite du matin, ainsi que celle des médecins de garde, des infirmières, des aides-soignantes, du personnel d'entretien, toutes ces personnes qui sont là, disponibles à toute heure du jour et de la nuit. Bien sûr, le rumeur n'est pas toujours au beau fixe, mais toutes ces personnes ont surtout de l'humanité dans toutes leurs paroles, dans leurs gestes, dans leurs regards. Au-delà des appareils toujours plus sophistiqués, elles vous font souvent comprendre qu'à leurs yeux, vous êtes la personne la plus importante au monde. Qu'elles feront tout pour que vous alliez mieux. Grâce à ça, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux. C'était un article d'un journaliste, là, l'année dernière, en fin d'année dernière. Enfin, un article, un petit... Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée des malades. Et en fait, le thème de cette journée... Donc, il y a un site, il y a toute une organisation hein, qui s'appelle la journée des malades, si vous voulez aller voir. Et j'aimerais qu'on mette le montage. Ça s'appelle, cette journée s'appelle « Prendre le temps pour toi, pour moi, pour nous ». C'est intéressant, prendre le temps, vous avez aussi ici le sigle de la journée des malades. Prendre le temps pour toi, pour moi, pour nous, alors qu'on sait que dans notre système de santé, il n'y a plus de temps. Donc, raison pour laquelle il nous faut vraiment intercéder et prier. En tant que CAS, Chrétien au service de la santé, nous mettons en œuvre depuis plusieurs années maintenant 24 heures, une chaîne de 24 heures de prière. Donc, depuis minuit le dernier jusqu'à minuit ce soir, sans arrêt, il y a des gens qui prient sur cette chaîne pour notre système de santé. Et c'est la première fois que j'ai pu même mettre cela comme information sur le site même de la journée des malades, qui est annoncée officiellement. Voilà, donc c'était notre but, c'était pendant cette journée, finalement, dans beaucoup d'églises, hein, l'église réformée, par exemple, elle a gardé cette journée. Hein, ils prient réellement pour les malades, peut-être de manière plus particulière ce jour-là. Il y a des actions qui se font dans des hôpitaux. Mais pour nous, il nous semblait important de réintroduire la prière pour notre système de santé de manière générale, malade, soignant, dans cette journée-là. Raison pour laquelle, depuis plusieurs années, le Seigneur nous a conduits d'abord en Suisse romande de mettre une journée de prière. Et puis maintenant, c'est toute la Suisse qui prie. Et on espère vraiment, et on prie pour que ça se développe, qu'il y ait encore davantage au niveau de la prière pendant cette journée-là. Voilà, un petit peu d'informations par rapport à cela. Aussi par rapport à la prière, on a mis en place une vision qu'on a appelée fil d'argent. Vous êtes important pour nous. Tous ceux qui ont des fils d'argent, vous savez. Souvent, les fils d'argent sont plus en contact avec la santé que les plus jeunes. C'est l'occasion de pouvoir prier pour ce système de santé. Vous avez reçu aussi des cartes sur vos chaises, des cartes de visite pour mettre dans votre porte-monnaie, pour vous rappeler quand vous allez chez un pharmacien ou dans une pharmacie, hein, chez le dentiste. Hein, bénissez-le. Bénissez-le. Qui a eu affaire au monde de la santé pendant l'année dernière? Alors, les soignants, d'une part, ben, vous y travaillez, levez la main. Ensuite, chez le médecin, hospitalisé, chez le dentiste, gardez vos mains en haut, chez le dentiste. Chez le pharmacien, ben, il y a toutes les malvées. En fait, on est tous en contact avec notre système de santé. Raison pour laquelle c'est tellement important de pouvoir prier pour ce système de santé. Parce que lorsqu'on est malade, souvent des questions existentielles viennent et qu'on ne se pose pas entre la Coop et la Migros le samedi matin dans la course. C'est vrai? Moi, j'ai fait de l'évangélisation, j'ai travaillé avec Jem là dehors. Et souvent, les gens, ils sont tellement pris. Ils veulent pas. Leur préoccupation, ce n'est pas l'éternité. Leur préoccupation, ce n'est pas ça. Mais quand on est arrêté par la maladie, on dit souvent qu'on regarde en haut. D'habitude, on regarde comme ça, mais quand on est couché dans un lit, tout d'un coup, il y a une autre perspective. Et c'est là réellement où on peut rencontrer Jésus. Alors, nos systèmes de santé se sont fermés au christianisme et de manière générale à Jésus-Christ, alors qu'il a été fondé sur l'appel de Jésus, de prendre soin des malades, d'être un exemple comme lui, la plupart de son ministère était avec les malades. Mais vous savez quoi? L'extraordinaire plan de Dieu, c'est qu'il a fait de nous des temples portatifs. Et que même si nos systèmes de santé sont fermés à l'Évangile, les chrétiens au service de la santé sont des temples portatifs qui vont et qui pénètrent dans ces systèmes de santé. Waouh ! Ça, c'est un Dieu génial. Dans les pays les plus fermés, il a fait des temples portatifs qui transportent réellement son esprit. J'aimerais juste qu'on prenne la deuxième image. Voilà. Un motto qu'on dit régulièrement aussi pour nous dans les cas, c'est que chaque semaine, il y a davantage de personnes qui franchissent les portes de nos lieux de soins que celles de nos églises. On l'a vu ce matin. Et notre désir, c'est de pouvoir, d'une part, collaborer entre l'Église et ce qui se fait dans notre système de santé. Mais c'est aussi de réaliser que, oui, on a besoin de davantage d'envoyés de temples portatifs dans ce système de santé. Des personnes qui sont là au bon moment pour accompagner les gens et qui sont revêtues de la grâce de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Merci pour la dia suivante aussi. J'avais à cœur de partager ce texte avec vous ce matin. Marc 2, 1 à 12. Vous voyez de quel texte il s'agit, je pense. C'est un ami qui a fait ce dessin, qui est hongrois. Je vous le lis. Quelques jours après Jésus, donc Marc 2, 1, 2 déjà, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Ce n'est pas dans une synagogue que ça se passe, c'est chez lui. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir et il leur annonçait la parole. Donc il est là à la maison, les gens viennent de partout, il y a tellement de monde que voilà, la porte est fermée, on n'arrive pas à pénétrer. Et ma question ce matin, c'est quel type de personnes Jésus attirait ? Les malades. Les malades, quoi d'autre ? Ou qui d'autre ? Les possédés, les blessés de la vie, quoi. Les gens qui étaient rejetés. Il les attirait comme du miel attire les abeilles. Vraiment, les gens venaient à lui. À tel point que on ne pouvait plus pénétrer chez lui. Je me disais quand même, si dans ma vie, j'attirais les gens comme ça parce que je vivais Jésus tellement qu'il n'y ait plus de place pour rentrer dans la maison chez moi. Mes amis, ce n'est pas à l'Église qu'il faut attirer les gens. C'est vos vies qui doivent être le reflet de Jésus-Christ. L'Église, c'est juste le vient ensuite. Par contre, il était continuellement en conflit avec les personnes religieuses. Il attirait les paumés, les malades, et il était continuellement en conflit avec les religieux. Verset 3. Des gens vinrent à lui en amenant un paralytique. La souffrance, mes amis, est l'endroit où Dieu veut se révéler. La souffrance est l'endroit où Dieu veut se révéler. C'est le propre de notre foi en Jésus-Christ. Il s'est incarné sur la terre pour nous rencontrer dans nos limites et dans notre souffrance. On n'aime pas la souffrance. On est, à moins qu'on soit masochiste, il y en a quelques-uns quand même. Mais on n'aime pas la souffrance. Naturellement, on va la fuir. Mais Dieu vient l'habiter. Vient l'habiter de sa présence. C'est intéressant parce que je regardais finalement la vie de Bouddha. Bouddha, toute sa philosophie, c'était pour éviter la souffrance. Pour méditer à tel point où je m'extrais de ma propre vie, en quelque sorte un petit peu au-dessus, comme ça, pour sortir de la souffrance. Et toute la philosophie bouddhiste est là pour éviter la souffrance. Alors que Dieu vient nous rejoindre dans notre souffrance. Quel Dieu extraordinaire! Et il est même dit qu'il était l'homme de souffrance, habitué à la souffrance. Il vient nous rejoindre dans ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Il vient nous rejoindre dans les limites de notre humanité. Il ne fait pas de nous des surfemmes, des surhommes. Par la grâce de Dieu, je serai guéri. Oui, peut-être. Mais avant tout, il vient nous rejoindre là où j'en suis, dans ce que je suis. Et il veut habiter ce temps-là. Il veut habiter ce temps de sa présence. C'est vrai, nous avons un système de santé un des meilleurs au monde, en termes technologiques. Mais mes amis, que de solitude, que de souffrance dans notre système de santé. Une fois, je me trouvais dans l'hôpital à Genève, là, ce grand hôpital universitaire, énorme, 12 étages, 6 services par étage. Et je me disais, mais si on mettait la souffrance bout à bout dans cet hôpital, combien ça met, si on pouvait le mettre, combien ça ferait de kilomètres? Une somme de souffrance. Et la plupart d'entre nous, non-soignants, on y est confrontés régulièrement par nos proches, par des amis, mais les soignants, ils y travaillent dans la chambre de la souffrance. Ils y travaillent. Ils passent leurs heures de travail avec des gens en souffrance. Et quelle souffrance! Cet homme était porté, ce paralytique, par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Est-ce que juste un suivant, ça va mettre de la couleur, voilà. 4 personnes différentes, 4 personnes qu'on ne sait pas qui elles sont. Souvent, les soignants, ils ont peut-être un nom, mais on oublie après. Mais ce qu'on ne va pas oublier, c'est les sourires, c'est l'accueil. C'est le fait que quelqu'un s'est arrêté dans ma souffrance, pour moi. Et ici, ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça que j'aime cette image et que j'ai repris ce texte ce matin, le désir de ces 4 hommes, 4 amis, c'était d'amener ce malade à Jésus. Ils savaient au fond d'eux que s'ils amenaient ce malade à Jésus, il allait se passer quelque chose. Et ils sont prêts à prendre pas mal de risques pour ça, même à démonter le toit. Et je me posais la question en préparant cela, est-ce que je suis prête à prendre des risques pour amener les malades que je connais à Jésus? Comment est-ce qu'on peut amener des malades à Jésus? Je crois que c'est la première chose. Je peux amener les malades que je connais à Jésus en priant pour eux. Je les amène devant mon Seigneur par la prière. Ensuite, en les visitant, la Bible nous dit que c'est ceux-là même qui hériteront du royaume. Vous m'avez visité. En visitant les malades. C'est étonnant, ce texte, à la fin de Matthieu. Oui. C'est vraiment étonnant. En en priant, en visitant, en tant que soignant, en représentant simplement la personne que je suis, en représentant son caractère, en représentant sa compassion. La compassion de Dieu, mes amis, elle guérit. La compassion qui vient vraiment du cœur de Dieu, elle amène la guérison. C'est un fleuve, la compassion, qui vient du cœur de Dieu. Elle guérit les cœurs, elle peut guérir les corps, elle peut guérir dans tous les aspects de notre personne. Et je pourrais vous raconter des histoires sans fin de personnes qui ont vécu cette dynamique de compassion, soit pour elles-mêmes, soit qui ont pu simplement être ces gens du cœur de Père manifesté sur les autres. Vous le savez, on est dans un monde de souffrance. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et même dans une fabrique où il y a un établi, il peut y avoir beaucoup de souffrance, n'est-ce pas, Marlise? Dieu s'est incarné dans la souffrance et nous demande de faire de même. Allez, faites des nations des disciples, allez à la rencontre des gens. Pas dire, venez à l'église. Je ne sais pas pourquoi on a tordu ça. Je ne sais pas si c'est plus facile pour nous ou dire, voilà. Allez, allez rencontrer ceux qui souffrent. Ce n'est pas facile de rencontrer ceux qui souffrent. Comme je le disais, on n'aime pas la souffrance. On ne sait pas quoi dire devant la souffrance. Ben, dites rien. Quelquefois, c'est plus facile de rien dire pour la personne, d'avoir juste quelqu'un qui ne dit rien, que d'avoir une succession de versets bibliques. Mais vraiment, apprenons à accompagner dans la souffrance. Et c'est cette détermination de ces quatre amis à amener ce souffrant à Jésus. La coordination entre eux. Ils n'étaient pas tout seuls. Ils étaient quatre. Et souvent, on veut se lancer des défis tout seul, un peu à la Lucky Luke. Et puis, on se casse les dents. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Ce matin, je discutais là avec une sœur qui me disait, je sais qu'il y a un groupe ici à la Chaux-de-Fonds qui prie depuis des années, toutes les semaines pour les soignants. Et puis ça, c'est juste un groupe, il y en a partout. Se mettre ensemble pour prier. Se mettre ensemble pour aller. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est incroyable, il ne se connaissait pas. Il dit « Mon enfant, mon enfant. » Quelle proximité pour dire à ce malade « Mon enfant ». Qu'est-ce qu'il avait besoin d'entendre, ce malade ?« Mon enfant ». Moi, je pense qu'il avait besoin de l'entendre. « Mon enfant, mon fils, ma fille. » Il avait besoin de cette proximité. Et Jésus la lui donne. Et ensuite, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Mais attends, Seigneur, moi, je t'ai amené un malade ici. Il est paralysé. C'est pas dans une clinique psychiatrique que je l'ai amené. Il est paralysé. Il a besoin d'être guéri. Mais Jésus percevait que le véritable problème de cet homme, c'était non pas la paralysie, mais probablement une dynamique de culpabilité qui le paralysait. Peut-être depuis de nombreuses années, où il avait répété à Dieu, « Je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. » Et ça revenait. Et ce jour-là, Jésus, le maître, le rabbi, hein, lui dit, « Mon enfant, waouh, le maître me dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Tout ce que j'ai répété à Dieu depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être des années. Waouh, une parole spécifique. Et c'est loin. Cette dépendance du Saint-Esprit de la part de Jésus, cette telle dépendance du Saint-Esprit qu'il était capable de 1. Voir la foi des amis, 2. Voir le réel problème de la personne, et 3. Dans le texte plus loin, voir l'incrédulité et ce qui se passait dans le cœur des religieux. Tout en même temps. Vous vous rendez compte la connexion qu'il avait avec son Dieu. Mes amis, travaillons cette connexion avec Dieu. Parce que c'est la seule chose nécessaire dans la souffrance. Dans la souffrance, Dieu peut nous dire ce qui se passe, peut nous révéler ce qu'il y a derrière la façade. Un jour, dans une rencontre comme ça, à l'autre bout du lac de l'aimant. Je prêchais dans une soirée, il y avait 170 personnes. Et à la fin de la prédication, il y a un gars qui vient vers moi, il monte sur la scène, c'était plus haut encore, vraiment. Un grand gaillard comme ça. Et il me dit, c'est bien beau ce que vous nous avez dit ce soir, mais moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas en Dieu. Pour moi, Dieu, c'est un placebo. Et il a commencé de me parler en psychologie du moi, du sur-moi, du sous-moi. Enfin, il m'a paumé. J'étais perdue. Et au fond de moi, je criais à Dieu, « Seigneur, ouvre un chemin, fais quelque chose, donne-moi quelque chose. » Et après ça, où il m'a perdue, il a parlé politique, ça m'a aussi pas mal paumée. Et vraiment, hein, et vraiment il avait une parole, etc. Et à un certain moment, Jésus dit, « Mais il était grand, donc j'ai touché son cœur comme ça. » Ça faisait à peu près ça. J'ai dit, mais vous et moi, on sait que la problématique de tout ce qu'on vient de discuter, et puis j'ai mis mon doigt sur son cœur. J'ai dit, elle est là. Alors, il était un peu surpris, puis il m'a dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais en le touchant, Dieu m'a révélé son cœur. Il m'a donné une vision de son cœur. Déchiré, meurtri. Et j'ai continué de taper comme ça sur son cœur. Et je lui ai dit, waouh, 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 tellement de souffrance là derrière. Il a éclaté en pleurs. Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord que je prie le Dieu placebo pour vous? Il m'a dit oui. Puis ensuite, j'ai pu chercher quelqu'un qui puisse... Puis je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous aimeriez faire continuer un bout de chemin avec quelqu'un qui peut vous accompagner dans cette voie-là? Il m'a dit oui. Mes amis, on a besoin de cette connexion avec le ciel. On a besoin de la pratiquer. On a besoin de la pratiquer, pas seulement à l'église le dimanche matin, tant mieux, hein? Mais là où vraiment elle est nécessaire, c'est là dehors. C'est là dehors où Dieu veut nous révéler son cœur pour les gens. Pour que nous puissions les rencontrer, pour que nous puissions déverser le cœur de Dieu sur les autres. Et ça s'exerce. Ça s'exerce dans notre intimité, ça s'exerce d'écouter sa voix dans le calme pour que je puisse la reconnaître dans le brouhaha de ce monde. Et je pense... Ici, je vois Jésus comme un exemple de pouvoir écouter vraiment Dieu d'une telle manière. C'est extraordinaire, hein? On n'en est encore pas là. De pouvoir discerner la foi, ce qui se passe réellement dans le malade et ce que les pharisiens étaient en train de dire autour de lui. Et Jésus va continuer, hein, il a dit, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Etc., etc. Puis il leur dit, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Vous savez, c'est ce que je répète de plus en plus dans les gens que je vais voir, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour être des chrétiens. Pour être des bons chrétiens, il faut un bon agenda. Pour savoir la réunion de prière, le dimanche matin, les rencontres de prière ici ou là, je suis un peu sévère. Mais vraiment, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Mais on a besoin du Saint-Esprit si on veut être témoin de Jésus. On a besoin du Saint-Esprit qui fait de nous le sel et la lumière dans ce monde. Mais on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour être de bons chrétiens. Il y a des tas de chrétiens autour de nous qui vont dans des tas de rencontres, hein, et qui marquent chrétien sur leur fiche d'impôt, sous une dénomination ou une autre. Mais ça ne change pas ce monde. Mes amis, on a été sauvés pour qu'on puisse répandre le sel et la lumière autour de nous. Et souvent, je prends cet exemple et j'aimerais terminer par cela. Vous savez ce que c'est qu'un principe actif dans un médicament, ou plutôt quand il n'y a pas de principe actif dans un médicament. Comment on appelle ce médicament ? Exactement. Donc en fait, un placebo, c'est quand il n'y a rien dans le médicament, n'est-ce pas ? Mais est-ce qu'il agit ?
C'est une illusion.
Non, du tout. Est-ce qu'il agit ? Il agit. Oui, il agit. Un placebo normal, fait en général, ce qu'on a pu voir, il fait au moins 30% d'effet. C'est énorme, hein ? 30% d'effet alors qu'il n'y a rien dans le médicament. Maintenant, c'est ce que je dis souvent aux gens. Voulez-vous, je vous dire comment vous pouvez faire de l'argent. Vous prenez du sucre, vous le concassez, vous mettez un peu de couleur, et puis vous allez voir vos voisines, 10 voisines, puis vous leur dites ce comprimé, cette poudre, elle guérit les maux de tête. Et si vous êtes vraiment convaincu, sur 10 voisines, 3 seront guéries spontanément. C'est ça l'effet placebo. Maintenant, si en plus de donner le médicament, vous allez boire des cafés avec les voisines, vous discutez, vous les faites parler de ce qu'elles vivent, vous les rencontrez là où elles en sont, vous savez à combien monte l'effet placebo ? Pas tout à fait, mais 60%. Ça veut dire que 6 sur 10 seront guéris. C'est pour ça que les médicaments sur le marché, ils doivent au moins avoir 78% d'effet pour qu'on soit sûr qu'ils dépassent l'effet maximum du placebo. Ma question, est-ce qu'on est des chrétiens placebo ? Où on fait les choses par nos propres forces, ou bien on est réellement rempli du principe actif qui est le Saint-Esprit. Mes amis, on va vers des temps où on verra la différence. On ne pourra plus se contenter longtemps d'être un chrétien placebo, sans principe actif. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, ce principe actif. Parce que Dieu veut qu'on s'incarne dans la souffrance. Pas qu'on l'évite, mais qu'on rencontre les gens, parce que c'est son cœur, c'est juste son cœur de rencontrer les gens dans ce qu'ils vivent. C'est l'histoire de l'incarnation de Jésus-Christ. C'est là qu'est la force de l'Évangile. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. J'aimerais terminer juste par un texte que j'ai lu. Dieu n'est pas intéressé à utiliser ceux qui sont puissants, mais ceux qui sont volontaires. Non plus ceux qui sont extraordinaires, mais ceux qui sont préparés à donner leur vie pour lui. Dieu ne cherche pas des personnes extraordinaires ou spécialement douées, mais ceux qui aiment suffisamment Jésus afin de porter sa gloire dans la transparence sans la garder pour eux-mêmes. Amen. Je voulais juste encore, j'ai oublié tout à l'heure, mais on fait une formation pour les soignants ici à Crécy en avril, les personnes dans le système de la santé ou social, justement pour apprendre à être ce sel. C'est être sel, être lumière. C'est pas faire. C'est être témoin. Mais il faut être témoin de quelque chose. Donc, si vous voulez, j'ai tout ça ici devant. Vous pouvez venir chercher de la documentation, ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Merci.